VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guerrier au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du jeudi 12 mars 2015. Au sommaire ce matin.
La mission du Conseil de sécurité de l'ONU quitte la Centrafrique aujourd'hui après avoir évalué le travail accompli par la MINUSCA.
Ce sont des missions immenses, une difficulté extrême. Et très franchement, le travail qui est accompli par la MINUSCA, de notre point de vue, est extraordinaire.
République démocratique du Congo, les Nations Unies sanctionnent 7 officiers susceptibles de violer les droits de l'homme.
Le Nigeria affirme que l'État islamique a entraîné des combattants de Boko Haram au Moyen-Orient.
La France va augmenter ses effectifs militaires au Sahel.
Lutte contre le groupe État islamique, les forces irakiennes sont entrées dans Tikrit hier.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
La mission du Conseil de sécurité de l'ONU quitte la Centrafrique aujourd'hui à destination d'Addis Abeba. Les membres de la délégation ont bouclé leur tournée ce mercredi dans le pays. Ils ont noté avec satisfaction le travail accompli par la MINUSCA 6 mois après son lancement. Après 48 heures d'évaluation de la situation sécuritaire sur le terrain, la mission du Conseil de sécurité qualifie d'extraordinaire le travail effectué par la MINUSCA. Pour François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et coprésident de la délégation, les missions de la force onusienne en Centrafrique sont immenses et d'une difficulté extrême.
J'ai un jugement, et je crois qu'il est largement partagé par le Conseil de sécurité, donc là je parle vraiment en qualité de président du Conseil de sécurité, un jugement extrêmement favorable et élogieux sur l'action de la MINUSCA. C'est pas facile, évidemment, parce que le quotidien n'est pas facile, la tâche qui est la sienne, notamment ses missions prioritaires, sont par définition difficiles, que ce soit la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, comme on l'a vu à Bria. Ce sont des missions immenses, d'une difficulté extrême, et très franchement, le travail qui est accompli par la MINUSCA, de notre point de vue, est extraordinaire.
Voilà, François Delattre, co-président de cette délégation de l'ONU en RCA. La journée d'hier a été particulièrement chargée pour les membres de cette délégation qui ont d'abord effectué dans la matinée un déplacement de quelques heures à Bria dans l'Est. Les discussions avec Madame Samba Panza, présidente de la transition, portaient essentiellement sur les consultations populaires en cours, le prochain forum de Bangui et l'organisation des élections avant devant sanctionner la transition. En marge de la mission, Samantha Power, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, s'est félicitée de la baisse des violences contre les civils. Elle a réaffirmé l'engagement du département d'État américain à soutenir la RCA. La délégation quitte Bangui ce jeudi à destination d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie.
République démocratique du Congo, les Nations Unies sanctionnent 7 officiers en raison du risque qu'ils présentent de commettre des violations des droits de l'homme. Dans un rapport remis au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, explique que la mission en RDC a passé en revue 124 officiers de la police et de l'armée. 7 d'entre eux ne remplissent pas les critères des Nations Unies en matière de droits de l'homme, explique le rapport. Selon l'AFP, les officiers mis en cause et leurs unités ne recevront plus le soutien de la MONUSCO pour ce qui est du transport, du carburant ou de la formation. La MONUSCO cessera également ses opérations conjointes avec les unités commandées par ses officiers.
Procès de Simone Gbagbo face aux critiques. Le gouvernement ivoirien a démenti hier toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo pour les violences post-électorales de 2010-2011. On fait le point avec Bagassi Koura.
Pour le gouvernement ivoirien, il n'y a absolument pas d'interférence. La justice fait son travail de manière totalement indépendante. C'est ce qu'a affirmé Bruno Kone, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Il s'agit d'un procès d'assises qui fonctionne avec des jurés qui sont pris au hasard, a poursuivi Kone, cité par l'AFP. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée mardi à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Le parquet général avait requis une peine de 10 ans de prison. Le verdict donne le net sentiment qu'il s'agit d'un acharnement contre la famille et les proches de Laurent Gbagbo, a regretté Alphonse Douati, ministre sous Laurent Gbagbo. Si les deux camps se sont montrés coupables d'exactions pendant la crise de 2010 à 2011, aucun responsable pro-Ouattara n'a à ce jour été inquiété, ce qui nourrit les accusations de justice des vainqueurs à quelques mois seulement de la présidentielle d'octobre.
La France va augmenter ses effectifs militaires au Sahel en raison des tensions liées au groupe islamiste nigérian Boko Haram autour du lac Tchad. Claire Morin-Gibourg.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a annoncé hier. Les effectifs de Barkhane au Sahel vont légèrement augmenter et ceux de Sangaris en Centrafrique vont diminuer pour, selon ses propres termes, donner des moyens de soutien et d'accompagnement sur les tensions qui se produisent autour du lac Tchad. Le ministre a toutefois précisé que les militaires français ne combattraient pas Boko Haram, mais apporteraient un soutien logistique, notamment en carburant et en renseignement aux forces tchadiennes, nigériennes et camerounaises engagées sur le terrain. Jean-Yves Le Drian s'est félicité de la vraie volonté des pays africains concernés de s'organiser entre eux et de mener le combat. « C'est un élément nouveau qu'on apprécie », a-t-il confié lors de sa conférence de presse. La force Barkhane compte 3000 hommes et elle est déployée sur 5 pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. En Centrafrique, suite à l'amorce d'un dialogue national, Paris a commencé à réduire les effectifs de la force Sangaris de 2000 à 1700 hommes, passant progressivement le relais à la force de l'ONU, la MINUSCA.
Appel de 24 organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile aux autorités mauritaniennes pour qu'elles gracient un jeune blogueur condamné à mort en décembre sous l'accusation d'avoir abjuré sa foi musulmane. Dans un article publié sur Internet, il avait critiqué l'utilisation de l'islam pour perpétuer le système de caste dans le pays. Les précisions de Michel Joseph.
Mohamed Mkhetir est la première personne à être condamnée à la peine capitale pour apostasie en Mauritanie. Durant son procès, le juge l'a accusé d'avoir parlé avec légèreté du prophète Mohamed dans son article. Mkhetir a expliqué que ce n'était pas du tout son intention et s'en est repenti. Selon la loi islamique, cela pourrait lui valoir la clémence de la justice. Le jeune blogueur a aussi interjeté appel et la Cour suprême pourrait le gracier. Kiné Fatimé est responsable de la campagne ouest-africaine d'Amnesty International, une des ONG plaidant la cause de Mohamed Mkhetir.
Pour nous, ce n'est pas un crime d'écrire un article d'opinion, ce n'est pas un crime de penser librement, donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés à faire pression sur les autorités mauritaniennes pour qu'ils libèrent sans condition Mohamed Mkhetir.
L'article de Mohamed Mkhetir avait suscité des manifestations de protestation dans l'ensemble de la Mauritanie, seule république islamique d'Afrique de l'Ouest. Pour Amnesty International, ce pays doit supprimer de son code pénal la criminalisation de l'apostasie, car cela va contre le droit international.
Au Soudan, dans la région du Darfour, des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur un convoi du Programme alimentaire mondial et de la MINUAD, la force conjointe ONU-Union africaine. C'est ce que rapporte l'AFP. L'attaque qui s'est produite mardi n'aurait fait qu'un blessé léger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre l'État islamique, les forces irakiennes sont entrées dans Tikrit hier. Des soldats, des policiers, des membres des unités de mobilisation populaire composées de miliciens chiites ont repris le contrôle d'une bonne partie du quartier de Qadisiyah. Mais la suite s'annonce délicate, a d'ores et déjà prévenu un haut gradé sous couvert d'anonymat. D'après l'AFP, des dizaines de milliers d'hommes participent à la bataille face à quelques centaines de djihadistes. Lancée il y a 10 jours, l'offensive des forces gouvernementales irakiennes pour reprendre Tikrit, tombée dès juin aux mains des insurgés, après un tour nouveau avec la percée de leur rang dans le nord de la ville.
Et puis sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé le Congrès hier d'autoriser formellement le président Barack Obama à mener la guerre contre ce groupe en Irak et en Syrie.
La Syrie, hein, qui vit désormais quasiment sans lumière, 83% d'entre elles ne fonctionnent plus en raison de la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans, affirme une coalition de quelques 130 ONG.
Ici aux États-Unis, le chef de la police de Ferguson dans le Missouri quitte ses fonctions, indique l'AFP, mesure qui intervient une semaine après un rapport détaillant des pratiques policières racistes quasiment routinières de cette ville du Missouri où un jeune noir a été tué par un officier blanc l'été dernier.
Et du côté des étoiles, un astronaute américain et deux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale sont revenus sur Terre après un séjour de 6 mois dans l'espace. Ils se sont posés dans les steppes du Kazakhstan à l'aube ce matin. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les syndicats gabonais ne lâchent pas le morceau et dans la fonction publique, on ne compte plus les jours. Car la grève de la fonction publique, notamment des enseignants et du personnel de la santé, continue depuis des semaines. Hier, Dynamique Unitaire, qui regroupe une cinquantaine de syndicats, a conclu à des discussions infructueuses avec le gouvernement. Aujourd'hui, les cours n'ont toujours pas repris dans la majorité des lycées publics. Pas de reprise des cours sans mesures concrètes, à commencer par l'augmentation du SMIC, a dit à la Voix de l'Amérique Alain Mouagouadi, membre du Collège des leaders de la Dynamique Unitaire.
Jusqu'à ce jour, malgré les discours du président de la République, le gouvernement refuse catégoriquement d'augmenter le SMIC. Il refuse de s'engager, sous prétexte qu'ils vont mettre en place un nouveau système de rémunération.
Mais ça, ce sera en juillet, non, ce nouveau système, non?
Oui, mais nous refusons d'attendre juillet. Nous demandons que le SMIC et le point d'indice soient revalorisés.
La Guinée équatoriale lance une vaste campagne de forage de 2000 puits à la suite d'un contrat de 20 milliards de francs CFA avec l'entreprise brésilienne Efes Costa, indique la revue économique Info Plus Gabon. Bénéficieront de ce programme les zones rurales et certains secteurs de Bata et de Malabo où les populations rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. L'entreprise brésilienne envisagerait de forer un puits tous les 3 jours. Chaque puits produira 15 litres d'eau par minute. L'Algérie veut relancer des projets énergétiques avec l'Union européenne pour l'aider à limiter sa dépendance à l'égard de la Russie, selon les commentaires du Premier ministre Abdelmalek Sellal, rapporté hier par la presse nationale. Monsieur Sellal a exprimé ce souhait mardi en recevant son homologue portugais Pedro Passos Coelho en visite à Alger, indique l'AFP.
Les sports ce matin, c'est avec Bagessikoura. Bonjour Bagessi.
Bonjour Morgane.
Suite de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal.
Oui, la deuxième journée dans le groupe A s'est déroulée hier soir. Le Nigeria a laminé le Congo 3-1. Grâce aussi à sa victoire par 3-1 contre le Sénégal le dimanche, le Nigeria se qualifie donc pour la Coupe du monde de la catégorie. Les Lionceaux de la Teranga, eux, ont été battus par les éléphantaux de Côte d'Ivoire, 1-0.
En Europe, football, qualification du PSG et du Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le PSG en déplacement à Chelsea a réalisé l'exploit avec 2-2 après prolongation et à 10-11. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, ayant été expulsé dès la première mi-temps pour une faute sur un joueur anglais au match aller. Il y a deux équipes avaient fait match nul, 1-0 à Paris.
Et cette humiliation pour les Ukrainiens.
Oui, après son match nul 0-0 encourageant à domicile, le Shakhtar Donetsk n'a eu aucune chance en Allemagne. Le club ukrainien a été battu 7-0 par le Bayern. Comme le PSG, le Shakhtar a dû jouer à 10 après expulsion d'un de ses joueurs. Et puis enfin, Morgane, quelques résultats de la nuit dernière de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Alors, Sacramento, Charlotte, 113-106. Chicago s'est imposé face à Philadelphie, 104-95. Memphis, Boston, 92-95. Brooklyn, Miami, 98-104. Orlando, Milwaukee, 91-97. Les Los Angeles Clippers ont vaincu Oklahoma, 120-108. Atlanta, Denver, 102-115. Minnesota, Phoenix, 97-106. Détroit, Golden State, Warriors, 98-105. Houston, Portland, 100-105.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du jeudi 12 mars 2015. Place au dossier du jour. En Guinée, friction entre le pouvoir et l'opposition au sujet des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Selon la commission électorale, le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre 2015, alors que les locales, elles, sont prévues pour fin mars 2016. L'opposition estime que, conformément à l'accord signé avec le pouvoir, les élections locales doivent avoir lieu avant la présidentielle. Nicolas Pinault a interrogé à ce sujet M. Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis.
Vous savez, nous sortons d'une situation extraordinaire. Le pays a été confronté, vous le savez, depuis un an, à une maladie terrible, qui est Ebola. Et Dieu merci, nous sommes pratiquement à la fin de l'épidémie. Et donc, ce qui avait plombé toutes les activités en Guinée. Quand on voit la réaction de l'opposition, elle est dans son rôle, hein, pour moi. Je respecte vraiment cette opposition, elle est dans son rôle, c'est normal. Mais il faut respecter aussi la CENI, qui est un organe indépendant. Donc si la CENI a fixé le chronogramme des élections, c'est tout à fait légitime et normal que nous nous y plions.
Pour le moment, il n'y a plus de maire, ce sont des représentants nommés, une délégation spéciale. Ça, c'est l'argument de l'opposition.
Voilà,
aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez concernant ce souci de la transparence et de la crédibilité des scrutins à venir?
Vous savez, Nicolas, moi, je voudrais vous rappeler simplement une chose. Nous avons organisé deux élections majeures maintenant en Guinée. En 2013, il y a eu les élections législatives. Il y a eu aussi les élections présidentielles avant. Et je crois qu'elles ont été saluées par toute la communauté internationale pour leur transparence. D'ailleurs, je crois que le Parlement guinéen présente le meilleur visage en matière de présence de l'opposition massive dans son hémicycle que pas mal d'autres pays. Donc c'est dire qu'on a maintenant l'habitude qu'il y a quand même une certaine tradition de transparence qui s'est installée dans le pays. C'est de bonne guerre, hein, vous savez, c'est toujours comme ça. Je vois mal une opposition applaudir les gouvernants. Mais c'est normal aussi que chacun voit la réalité en face. Vous savez, nous n'avons pas le droit de jouer avec le feu. Et il ne faut pas jouer avec le destin de tout un peuple, c'est dangereux. Les maires étaient même pratiquement, leur mandat était caduque avant même l'élection du président Alpha. Donc c'est dit qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président du groupe parlementaire du RPG à l'Assemblée, il est quand même plus dangereux, à mon sens, de laisser un président dont le mandat est fini qu'un maire. C'est encore plus dangereux. Ça, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de catastrophes et d'aventures.
Le professeur Alpha Condé avait été le premier président élu démocratiquement en Guinée.
Oui.
Sera-t-il le premier président réélu démocratiquement?
Je le souhaite ardemment. Je le souhaite. Et je pense que tous les indicateurs sont pratiquement ouvert pour lui aujourd'hui, pour toutes les réformes qu'il a pu mettre en place depuis son arrivée. Imaginez, il a dit que quand il arrivait au pouvoir, il avait trouvé, disons, une situation rocambolesque. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas d'État, comme il dit, il y avait le pays.
Le président donc, Condé qui dit « j'ai hérité d'un pays, pas d'un État ».
Pas d'un État, il l'a dit. Et ceci s'est vérifié par tout ce qu'il a engagé comme réforme.
Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, affirme que le groupe État islamique a fourni de l'entraînement aux combattants de Boko Haram au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit hier à Abuja dans une interview accordée à notre collègue Chris Stein. Un résumé de cet entretien vous est présenté par Lionel Gaïma.
Goodluck Jonathan parlait quatre jours après que le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a fait acte d'allégeance aux djihadistes de l'État islamique basé en Syrie et en Irak. Dans son interview publiée hier, mercredi, par la VOA, le président nigérian n'a pas précisé où l'entraînement des éléments de Boko Haram a eu lieu au Moyen-Orient. Il a simplement dit avoir longtemps soupçonné que le groupe extrémiste nigérian avait formé des alliances avec des mouvements similaires à l'étranger.
We knew that.
Nous savons que ces liens existent, mais même maintenant, nous ne savons pas le degré de soutien que ce lien leur apporte du point de vue fonds, armes et combattants étrangers. Mais l'entraînement, parce que certains membres de Boko Haram vont s'entraîner dans les camps du groupe État islamique et reviennent au pays. Goodluck Jonathan est candidat à sa propre succession le 28 mars. On s'attend à ce que cette élection soit la plus serrée depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999. Le principal rival du président n'est autre que l'ancien leader militaire du pays, Muhammadu Buhari, candidat du Congrès progressiste APC. L'élection qui devait se tenir à la mi-février avait été reportée parce que, disait l'armée, elle n'avait pas assez de troupes pour garantir la sécurité des opérations de vote. Depuis, le soldat nigérian, épaulé par des troupes tchadiennes, camerounaises et nigériennes, ont délogé Boko Haram de certains villages et localités du nord-est du Nigeria. Dans son interview à la VOA, le président Jonathan a expliqué ses succès par le concours des voisins et aussi par l'acquisition de nouveaux armements. Il a réagi vivement aux critiques selon lesquelles il n'est pas permis aux troupes étrangères de pénétrer profondément dans les bastions de Boko Haram. Yaoundé, a-t-il soutenu, refusait auparavant au Nigeria le droit de poursuivre les combattants de Boko Haram en territoire camerounais. Les restrictions sur les mouvements de troupes étrangères étaient selon lui question de coordination. Je crois que l'idée est que vous voyez que pour toute offensive majeure, nous devons être informés. Et là, c'est possible. Laissez quelques soldats nigériens être aussi avec vous. Le président Jonathan a également déclaré que les instructeurs étrangers étaient sur le terrain dans le nord-est pour apprendre aux troupes nigérianes comment utiliser leurs nouvelles armes parce qu'elles n'avaient pas assez de temps avant leur déploiement. Selon lui, deux compagnies sont impliquées dans ce programme d'entraînement, mais il s'est refusé à préciser de quel pays elles venaient. Goodluck Jonathan a rejeté toute suggestion selon laquelle l'insurrection de Boko Haram allait définir son premier mandat à la tête du Nigeria. Le président nigérian a par ailleurs prédit qu'avant le milieu de la semaine prochaine, les États de Yobe et Adamawa seront débarrassés de Boko Haram. Et il espère que l'État voisin de Borno, où le groupe a vu le jour, suivra dans les trois prochaines semaines.
Et nous partons maintenant au Bénin qui a accueilli la 20e session du Conseil d'orientation et de suivi du coton. L'occasion de réfléchir sur la productivité, la qualité, la compétitivité du coton. Reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Le coton africain est à la croisée des chemins. Il est en proie à de multiples difficultés qui l'empêchent d'être compétitif sur le marché mondial. Ahmed Bachir Diop, ancien président de l'association cotonnière africaine, nous peint ici la situation actuelle du coton africain.
Il est passé dans la moitié des années 2000 dans des situations extrêmement difficiles qui étaient caractérisées par un effondrement des cours mondiaux, par une flambée du prix des intrants, par des difficultés indicible. Il est en train de remonter, il est en train de s'organiser à travers l'association cotonnière africaine. Les experts de nos différentes sociétés cotonnières travaillent ensemble et nous avons entamé une offensive commerciale. Les cours mondiaux du coton sont aujourd'hui très bas aussi.
Et à Cotonou, l'occasion a été donnée aux experts du coton africain de réfléchir et de trouver les moyens pour rendre cette offensive commerciale efficiente et réellement bénéfique pour le coton africain. Arifari Bako, ministre béninois des Affaires étrangères, procédant à l'ouverture des travaux en lieu et place du président de la République du Bénin, a sa conviction en la matière.
La redéfinition et la mise en œuvre de politiques macroéconomiques associant les principaux acteurs en vue de relever les défis par la mise en place d'une synergie entre la production, la commercialisation et les investissements indispensables sont aujourd'hui plus que vitaux pour la survie du coton africain.
Tout ceci devant concourir au développement du coton africain, l'Union européenne est venue à la rescousse du secteur, et ce, depuis 10 ans, pour des actions heureuses au chevet de l'or blanc africain. Comme nous le précise ici le secrétaire général du groupe des États ACP.
Le volet de développement du coton se gère dans plusieurs creusets, dont l'un des plus importants est le partenariat Union européenne-Afrique. Mis en place en 2004 à Paris, pour répondre aux défis de la filière coton, le partenariat UE-Afrique contribue depuis lors à la lutte contre la pauvreté dans les bassins cotonniers en Afrique, notamment par l'amélioration de la productivité et de la compétitivité du coton en y apportant une plus-value sous diverses formes, à savoir le renforcement des capacités, la valorisation locale et la promotion d'une meilleure qualité du coton africain sur le marché.
Plus de travail pour plus de qualité. C'est désormais le credo des filières cotonnières africaines à la fin des travaux de Cotonou. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Un Boeing 777 gabonais est immobilisé depuis plus de deux semaines à Orly en France à la demande d'une entreprise suisse réclamant 8 millions de dollars d'impayés au Gabon. En 2004, un Boeing 747 d'Air Gabon avait connu le même sort, ce qui avait obligé les autorités à venir payer la note à Paris. Nathalie Barge a joint le directeur du journal Info Plus Gabon, Antoine Lawson.
Il y a eu aussi un précédent, il y a quelques années, avec un avion de Gabon Airlines, également un Boeing, qui avait été mobilisé à l'aéroport d'Addis Abeba. Effectivement, c'est une question de gestion qui revient de manière récurrente, qui fait que les autorités ne gèrent pas bien les sociétés aériennes. Et le Gabon se retrouve de temps en temps dans une situation assez embarrassante, qui met un peu en doute la notion de gestion d'un pays démocratique. Et on se retrouve de temps en temps avec des avions bloqués par-ci, par-là, parce qu'il y a, par exemple, des frais aéroportiers ou bien des frais d'entretien qui ne sont pas tenus. Donc, on se retrouve dans une situation assez rocambolesque.
Qu'est-ce qu'en pense la population de, notamment, cette grosse somme-là qui est réclamée par cette société suisse?
Mais effectivement, entretenir un avion, c'est difficile. Et je tenais tout de même à rappeler que le Gabon ne dispose plus de société nationale. Il y a des compagnies nationales aériennes comme les pays voisins de la CEMAC, qui sont d'ailleurs tous producteurs de pétrole. Et au niveau de la CEMAC, vous avez par exemple le Cameroun qui possède sa compagnie nationale. Il y a le Congo, il y a la Guinée équatoriale récemment qui possède également sa compagnie aérienne. Effectivement, les problèmes de gestion sont récurrents au niveau du Gabon et c'est vraiment dommage qu'un avion propriété de l'État gabonais soit saisi. Je me souviens que cet avion a été saisi à Orly vers le 25 février et selon les sources aéroportuaires au niveau du Gabon, on n'a pas pu savoir combien il est réclamé au Gabon. Donc la somme de 8 millions de dollars a été avancée par le Figaro, donc information que j'ai pu avoir. Je pense que dans les conditions difficiles économiques que traverse le Gabon actuellement, cette situation vraiment n'apporte pas du moule dans la bonne activité du gouvernement.
Notre confrère Antoine Lawson joint à Libreville. Deux hauts responsables américains mettent en garde contre l'écart croissant entre les dépenses militaires américaines et européennes. Et ce, alors que les États-Unis déploient des tanks et des navires de guerre en Europe. Les précisions de Félix Epassi-Zembrou.
400 blindés américains ont été débarqués cette semaine du cargo Liberty Propaeus dans le port de Riga, en Lettonie, dans une démonstration de force des États-Unis. Sur le quai, le général américain John O'Connor a tenu à préciser qu'il s'agit d'une démonstration de solidarité. Nous pouvons livrer la puissance de combat à nos alliés à tout moment, en tout endroit. Et notre message au peuple letton, aux alliés et nations partenaires, est que l'armée américaine en Europe peut et fournira, en cas de nécessité, un soutien rapide par voie aérienne, terrestre et maritime, a dit le général O'Connor. L'OTAN a lancé à plusieurs reprises des avertissements au sujet de la menace que constitue la Russie depuis son annexion de la Crimée il y a un an et son ingérence continue dans l'est de l'Ukraine. Au sommet de l'Alliance Atlantique de l'année dernière, au pays de Galles, les pays membres s'étaient engagés à consacrer au moins 2% de leur PNB à la défense. Toutefois, Lukács Kulesa du réseau européen de leadership affirme que, selon les analyses de son groupe, l'Estonie est le seul pays à même d'atteindre cet objectif en dehors des États-Unis. Un certain nombre de pays font en fait le contraire de ce qui a été convenu au pays de Galles, a-t-il souligné. La Grande-Bretagne, alliée traditionnelle des États-Unis, figure parmi les pays pouvant rater l'objectif des 2% du PNB. Cela pourrait affecter le rôle de Londres dans les opérations de l'OTAN, souligne Ben Barry de l'Institut international d'études stratégiques. L'armée britannique n'a pas assez de troupes pour déployer dans une opération multinationale comme autrefois. En plus, bien sûr, l'armée américaine a réduit sa taille. Vous pouvez donc dire que cette dernière dépend de plus en plus des partenaires multinationaux pour mobiliser une force efficace pour une opération de la coalition. Dans le même temps, la contribution des États-Unis à l'OTAN s'est accrue de manière soutenue, selon Lukács Kulesa. C'est plus de 70%, soit 20% de plus que durant la guerre froide. Et bien sûr, ce n'est pas sain, car cela amène certains pays à croire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de s'efforcer. La Russie a régulièrement mené des exercices militaires près de la frontière ukrainienne et les chefs militaires de l'OTAN avertissent que Moscou investit sans compter dans la modernisation de son armée.